Les Trois Mousquetaires. Voici l'histoire des Trois Mousquetaires, qui, comme vous le savez peut-être, n'étaient pas trois, mais quatre. Par un matin d'avril 1625, le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour galoper vers Paris. Il a dans sa poche une lettre de recommandation pour Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires. Car D'Artagnan ne rêve que d'une chose, faire partie des mousquetaires du roi Louis XIII. Hélas, avant même d'arriver à Paris, il se bat contre un gentilhomme qui a osé se moquer de la couleur de son cheval. Blessé dans la bagarre, il reprend peu après la route vers Paris. Là, il commence par vendre sa monture pour 3 malheureux écus. Mais le pire, c'est que l'homme avec lequel il s'est battu lui a volé sa lettre de recommandation. Aussi n'est-il pas très fier lorsqu'il se présente devant Monsieur de Tréville en balbutiant
« Monsieur, j'aimerais faire partie de vos mousquetaires. »
Parbleu, Monsieur D'Artagnan, on n'entre pas comme ça chez les mousquetaires. Il faut d'abord faire ses preuves. Quelle déception pour D'Artagnan. Mais soudain, jetant un coup d'œil par la fenêtre, qui voit-il ? Un individu très brun, au regard perçant, avec une cicatrice à la tempe. Il reconnaît aussitôt l'homme qui lui a volé la lettre. Il se précipite dehors et, emporté par son élan, il bouscule un mousquetaire. Il s'excuse vaguement, mais l'autre lui dit
« Vous dites « excusez-moi » et vous croyez que ça suffit ?»
Exaspéré, D'Artagnan rétorque
« Morbleu, monsieur, si je n'étais pas si pressé !»«
Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez sans courir. »
« Et où cela, s'il vous plaît ?»«
Près des Carmes Deschaux, vers midi. Mon nom est Athos. »
En attendant, l'homme à la cicatrice en a profité pour disparaître dans la foule. D'Artagnan est si troublé qu'il commet maladresse sur maladresse. Deux mousquetaires nommés Porthos et Aramis, bien décidés à remettre à sa place cet insolent, le provoquent à leur tour en duel. 3 duels en une journée, voilà une carrière qui commence bien mal. D'Artagnan n'est pas au bout de ses surprises. Lorsqu'il se présente au rendez-vous avec Athos, c'est pour s'apercevoir que celui-ci a amené comme témoin Porthos et Aramis. Athos, Porthos et Aramis sont inséparables. Mais le cardinal de Richelieu, qui est l'homme le plus puissant de France après le roi, a interdit de se battre en duel. Alors bien sûr, des gardes du cardinal surgissent au premier cliquetis d'épée. Et comme les mousquetaires continuent à se battre comme si de rien n'était, les gardes du cardinal chargent. En un clin d'œil, D'Artagnan fait son choix. Puisqu'il veut être mousquetaire du roi, eh bien il se battra avec eux contre les hommes du cardinal. Il se bat avec tant de cœur qu'il tue le chef des gardes. Et au bout de quelques minutes, les hommes du cardinal s'en vont sans demander leur reste. Quant à D'Artagnan, il s'est fait 3 amis. La bagarre fait grand bruit dans Paris. Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires, est obligé d'expliquer au roi que ces hommes n'ont fait que se défendre contre ceux du cardinal, qui les avaient attaqués. Et le roi, qui aime bien ses mousquetaires, se laisse convaincre. Pour récompenser D'Artagnan de son courage, il lui donne 40 pistoles et une place dans une compagnie de gardes. D'Artagnan n'est qu'à moitié satisfait. Pour lui, aucune compagnie ne vaut celle des mousquetaires. Mais au fait, peut-être serait-il temps de vous décrire nos 4 lascars. Athos est beau et plein d'esprit, il parle peu, mais ses paroles valent de l'or.
Porthos, lui, parle beaucoup et très fort, juste pour le plaisir d'entendre le son de sa voix. Il est élégant et c'est un vrai panier percé. Il dépense même l'argent qu'il n'a pas. Quant à Aramis, il est assez porté sur la religion, mais aussi sur les jolies femmes. D'Artagnan, enfin, vous le connaissez déjà un peu, susceptible, habile et courageux, c'est aussi un sentimental, comme vous le verrez bientôt, mais n'anticipons pas. Quelque temps après ce mémorable duel, D'Artagnan reçoit la visite de M. Bonacieux, son voisin. Le pauvre homme est dans tous ses états.
Oh, ma femme a été enlevée. Ma femme est lingère chez la reine, monsieur. Je crois qu'on l'a enlevée à cause des amours d'une grande dame.
D'Artagnan cuisine M. Bonacieux. Les amours d'une grande dame ? De Madame d'Aiguillon ?
Plus haut, monsieur, plus haut.
De Madame de Chevreuse ?
Plus haut, monsieur, plus haut.
De la...
Oui, monsieur.
Et avec qui ? Le duc de...
Oui, monsieur.
Savez-vous au moins qui a enlevé votre femme ?
Un seigneur au teint basané, avec une cicatrice à la tempe.
D'Artagnan n'en croit pas ses oreilles. Décidément, l'homme à la cicatrice le poursuit. Sans hésiter, il promet à M. Bonacieux. J'ai moi aussi un compte à régler avec cet homme. Je me charge de retrouver votre femme, et je me vengerai par la même occasion. Bonacieux pousse un soupir de soulagement.
Oh, vous me sauvez, monsieur. Oh, mais...
Quoi ?
Là, dans la rue.
D'Artagnan s'approche de la fenêtre et s'écrie. L'homme à la cicatrice ! Cette fois, il ne m'échappera pas. D'Artagnan a parlé un peu vite. Une fois de plus, l'homme disparaît comme par enchantement. C'est à désespérer. Mais les nouveaux amis de D'Artagnan lui promettent de l'aider. Ce jour-là, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan se jurent une amitié éternelle en prononçant solennellement ce qui sera leur devise.
Tous pour un pour tous.
Les voilà amis à la vie et à la mort. Cependant, les hommes du cardinal s'intéressent de très près au couple Bonacieux, à cause de cette très grande dame, dont Madame Bonacieux est proche, et dont vous avez compris, bien sûr, qu'il s'agissait de la reine. Le cardinal envoie donc 4 de ses hommes pour surveiller l'appartement des Bonacieux. Et un beau soir, depuis sa chambre qui se trouve juste au-dessus, D'Artagnan entend une femme crier d'une voix terrifiée.
Que je vous dis que je suis Madame Bonacieux.
Le sang de D'Artagnan ne fait qu'un tour. Il se précipite et met les 4 mains des routes. Madame Bonacieux, tout émue, s'écrie.
Ah, monsieur, vous m'avez sauvée.
Encore tout essoufflé, D'Artagnan lui demande.
Que vous est-il arrivé, madame ?
J'ai été enlevée par un homme qui avait une cicatrice à la tempe. Mais je me suis enfuie. À l'aide de mes draps, je suis descendue par la fenêtre. J'arrive ici pour trouver ces hommes qui veulent m'arrêter.
Et s'ils reviennent, nous sommes perdus. Il faut nous sauver, vite !
Sans hésiter, D'Artagnan emmène Madame Bonacieux chez son ami Athos, où elle pourra se cacher. Voilà Madame Bonacieux en sûreté. Comme elle est jolie, Madame Bonacieux, avec son teint de poupée, et ses beaux yeux bleus. D'Artagnan est ravi de devoir la protéger. C'est une bonne excuse, n'est-ce pas, pour la suivre partout où elle va. C'est en la suivant qu'il la voit un jour en compagnie d'un homme. Ça alors, c'est incroyable! Que lui veut ce monsieur? De quel droit ose-t-il se promener avec elle? D'Artagnan s'approche du couple pour voir la tête de ce goujat. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il reconnaît le duc de... Oui, le fameux duc de...
celui qui aime la reine, le duc de Buckingham. Le duc de Buckingham est une sorte de prince charmant. Beau, élégant, riche et puissant, cet aristocrate anglais aime la reine de France. Et la reine l'aime, en secret du roi, bien sûr. Ce qui explique les précautions que doit prendre le duc. Vous comprenez maintenant pourquoi Madame Bonacieux, complice du duc et de la reine, est si étroitement surveillée par les hommes du cardinal. Car le cardinal, lui, veut du mal à la reine. Mais revenons au duc de Buckingham. Avec la complicité de Madame Bonacieux, il a réussi à se glisser par des couloirs dérobés jusque chez la reine. Et il lui déclare son amour. « Où trouverez-vous, madame, un amour comme le mien? Un amour que l'absence ne peut éteindre, qui se contente d'un ruban égaré, d'une parole échappée. »
« Vous êtes fou. Le cardinal cherche à me nuire auprès du roi. Il ne faut pas que vous restiez ici. »
Mais le duc insiste.
Donnez-moi un gage de votre amour et je vous promets de partir.
Alors, la reine remet à Buckingham un petit coffret incrusté d'or en lui disant
« Tenez, Milord, gardez cela en souvenir de moi. »
Hélas, l'homme à la cicatrice a tout entendu. Le duc a à peine tourné les talons que ce sale espion court chez le cardinal et lui susurre à l'oreille.
« Monseigneur, la reine et le duc se sont vus. Elle lui a donné les ferrets en diamant que sa majesté le roi lui avait offerts. »
Le cardinal sourit dans sa moustache.
Merci, Rochefort. Ce renseignement me sera très utile. »
Et sans perdre une minute, il fait porter un message à une femme qui s'appelle Milady et qui travaille pour lui à Londres. Voici ce qu'il y a d'écrit.
« Trouvez-vous au premier bal où se rendra le duc de Buckingham. Il y aura à son pourpoint 12 ferrets de diamants. Approchez-vous de lui et coupez-en 2. » Dès que les ferrets seront en votre possession, prévenez-moi.
Une fois Rochefort parti, le cardinal convoque M. Bonacieux. En 2 minutes, il fait le tour du personnage. C'est un avare, prêt à tout pour de l'argent, même à trahir sa femme. Sans aucune difficulté, le cardinal lui fait promettre d'espionner sa femme et de l'informer de tout ce qu'il pourra découvrir. Monsieur le cardinal n'a pas perdu sa journée. Dès le lendemain, le cardinal dit au roi d'une voix doucereuse
« Sire, monsieur de Buckingham a passé 5 jours à Paris. »
Le roi s'écrie, rouge de colère
« Ah, je vois ! Il a vu la reine. Il conspire contre mon honneur. »
Hypocrite, le cardinal s'empresse d'ajouter
« Quelle idée, sire! La reine aime trop votre majesté. »
« J'ai hélas mon opinion sur l'amour que la reine me porte. »
« Plutôt que de la soupçonner, sire, ne devriez-vous pas faire quelque chose qui lui soit agréable ?»«
Laquelle ?»«
Donnez donc un bal. » Ce sera pour elle l'occasion de mettre ces beaux ferrets de diamants que vous lui avez donnés.
Vous devinez la joie du cardinal 10 jours plus tard, lorsqu'il reçoit un message de sa complice, Milady.
J'ai les ferrets. Envoyez-moi vite de l'argent pour que je puisse rentrer à Paris.
Le roi fait part aussitôt à la reine de son projet. Un bal ? La reine est ravie.
Que vous êtes bon, majesté. Vous savez à quel point j'aime danser. Comment vous remercierai-je ?
Sa joie est de courte durée, car le roi lui répond :
Comment ? Portez donc ces ferrets de diamants que je vous ai offerts.
La reine est au désespoir. Comment récupérer les ferrets ? Madame Bonacieux pense un moment demander l'aide de son mari. Elle commence à lui parler d'une mission à Londres, mais elle se rend bien vite compte qu'il est passé dans le camp du cardinal. Aussi se tourne-t-elle vers D'Artagnan. Celui-ci est ravi de se lancer dans une aventure pour les beaux yeux de Madame Bonacieux, mais cette dernière n'est pas rassurée.
Mais qu'est-ce qui me prouve que je peux avoir confiance en vous ?
Mon amour pour vous, madame !
C'est dit. D'Artagnan a avoué à Madame Bonacieux qu'il l'aimait. Et le voilà parti pour Londres. Malheureusement, Monsieur Bonacieux s'est empressé d'aller raconter à Rochefort, l'homme à la cicatrice, que sa femme cherchait quelqu'un pour accomplir une mission à Londres. La nuit suivante, D'Artagnan sort de Paris suivi de Planchet, son fidèle valet, armé jusqu'aux dents. À l'aube, ils arrivent à Calais et apprennent en arrivant au port que personne ne peut embarquer sans une permission expresse de Monsieur le Cardinal. Catastrophe ! Comment D'Artagnan va-t-il traverser la Manche ? Heureusement, la chance, une fois de plus, est avec lui. Il rencontre un gentilhomme qui affirme détenir une autorisation spéciale du cardinal. Cette autorisation, D'Artagnan se jure bien de la lui prendre. Il suit le gentilhomme et au moment où ils atteignent un petit bois désert, il l'aborde.
« Monsieur, vous me paraissez fort pressé !»
Sans même le regarder, l'autre répond.
« On ne peut plus presser, monsieur. Il faut que demain à midi, je sois à Londres. »
Sûr de lui, D'Artagnan réplique.
« Il faut, moi, que j'y sois demain à 10h du matin. »
« Désolé, monsieur, mais je suis arrivé le premier. Je ne passerai pas le second. »«
Désolé, monsieur, mais je suis arrivé le second et je passerai le premier. »
« Service du roi. »«
Service de moi. Je veux l'ordre dont vous êtes porteur. »
« Vous plaisantez. »
« Je ne plaisante jamais !»«
Mon brave homme, je vais vous casser la tête !»
Alors, D'Artagnan fait signe à Planchet et lui dit
« Charge-toi du valet, je me charge du maître !»
Aussitôt dit, aussitôt fait. Planchet saute sur le valet, D'Artagnan sur le maître. Trois coups d'épée et le gentilhomme est par terre. Il n'y a plus qu'à le fouiller pour lui prendre l'ordre de passage signé par le cardinal. Le lendemain, à 10h sonnante, le bateau sur lequel a embarqué D'Artagnan jette l'ancre dans le port de Douvres. Quelques heures plus tard, il est reçu par le duc de Buckingham. Celui-ci, dès qu'il apprend la raison de la venue de D'Artagnan, va chercher le petit coffret incrusté d'or. Il l'ouvre et pousse un cri terrible.
« Ah ! La reine est perdue ! Il manque 2 ferrets ! Il n'y en a plus que 10 ! On me les a volés !»
D'Artagnan ne se laisse pas si facilement décourager.
Si Milord pouvait se douter qui a commis le vol ?
« Attendez, j'ai mis ces ferrets une seule fois à un bal. » La comtesse de Winter s'est approchée de moi. Cette femme est un agent du cardinal. Je vais immédiatement donner l'ordre qu'aucun vaisseau ne sorte des ports de Grande-Bretagne. Ainsi, la comtesse ne pourra porter les ferrets au cardinal. Mon joaillier va en faire 2 copies que vous rapporterez à la reine. Elle les aura pour le bal.
Bien joué, Milord. Le grand jour est arrivé. Le bal en l'honneur de la reine. Imaginez l'air sarcastique du cardinal lorsque la reine apparaît sans les ferrets. Très déçu, le roi demande à sa femme.
Madame, pourquoi n'avez-vous point vos ferrets de diamants ?
La reine lui répond sans perdre son sang-froid.
Majesté, si tel est votre désir, je puis les envoyer chercher.
Cependant, tandis qu'on va chercher les ferrets dans les appartements de la reine, le cardinal s'approche du roi et lui remet une boîte en lui disant d'une voix mielleuse.
Si la reine a les ferrets, comptez-les bien, sire. Et si vous n'en comptez que 10, demandez à sa majesté qui lui a dérobé les 2 que voici.
Mais avant que le roi puisse répondre, la reine revient.